Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est le débat du soir qui fait la une ce matin sur France Inter et sur France 2. Ils seront 12 à faire entendre leur point de vue avant les européennes, 12 à vouloir sortir du lot. Ils s'y préparent depuis un bon moment hier encore. L'Europe à la une donc, et cette question posée à Bruxelles aujourd'hui. Est-il normal qu'un routier polonais passe 3 mois d'affilée sur les routes, payé 4 fois moins que ses collègues de l'Ouest? Dernier débat pour Emmanuel Macron. En Corse, ça ne sera sans doute pas le plus facile. Comment gouverner un peuple roi? Ça, c'est la question que pose votre invité, Nicolas.
Oui, et qui se pose aussi à la fin de ce grand débat national dont vous venez de parler. Le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, dans le grand entretien de la matinale à 8h20, 01 45 24 7000 pour dialoguer avec lui.
Dans ce journal également, parole de nostalgique de Daesh, des femmes dans des camps syriens. Un homme nouveau pour incarner l'Église de France, l'archevêque de Reims, prend la tête de la conférence des évêques avec une doctrine sans concession contre la pédophilie. Paris 2024, des contrats et des emplois à prendre. Et puis il paraît qu'il a libéré les femmes en leur coupant les cheveux. Jean-Louis David est mort hier à 85 ans.
France Inter.
Ils sont en train de réviser leurs fiches et d'écrire leurs meilleures répliques. L'extrême droite et la submersion migratoire, la majorité pour une Europe qui protège la gauche contre les accords de libre-échange. 12 candidats sur France Inter et sur France 2 ce soir, plus nombreux qu'une équipe de foot pour ce premier grand débat des européennes. Coup d'envoi à 21h après l'entraînement hier, repérage du terrain, le plateau de France Télévisions et le micro de France Inter, déjà celui de Maxence Lambrecq.
L'arène est impressionnante, bleu, blanc, rouge, avec 12 pupitres côte à côte qui forment un quart de cercle entouré d'écrans.
Ce débat, c'est une première pour moi, complètement.
L'ex-ministre Nathalie Loiseau a donc voulu prendre ses marques.
Le repérage ici, c'est toujours important parce que ça permet de se faire une idée claire de comment on va s'organiser, comment on va passer 3 heures quand même.
1, 2, 3, voilà, je te parle, 1, 2, 3, 4, 5,
pendant
6.
Que les micros sont testés, les candidats découvrent leur emplacement sur le plateau et l'insoumise Manon Aubry n'est pas ravie.
Le hasard a fait qu'il y a eu 2 tirages au sort et que les 2 fois, j'étais à l'extrême gauche, donc après ça ne m'empêchera pas d'essayer de pouvoir être centrale dans le débat.
Comment crever l'écran quand on est si nombreux? L'écolo Yannick Jadot ne se fait guère d'illusions.
De toute façon, à 12, ça ne facilite pas les choses. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Le risque, c'est que le débat devienne un peu foutoir, effectivement, et que finalement, les Français ne s'y retrouvent pas.
Pour que ce débat soit équitable et rythmé, il y a un outil qu'installe Fabrice sur les pupitres.
Sur la tablette, il y a le chronomètre pour le temps de parole, donc ils vont savoir combien il leur reste de temps, en fait. Et puis, il y aura des questions qui vont être posées, je crois, de 4 à 5 questions. Quoi.
Pour ou contre telle ou telle mesure, des questions qui rendront l'Europe un peu plus proche et éclaireront ce débat.
Débat mode d'emploi sur franceinter.fr. Avant le débat animé par Alexandra Ben Saïd et Thomas Soto, nous prendrons l'antenne à partir de 20h pour poser les enjeux de l'élection du 26 mai, décrypter les fractures de cette Europe de 2019 entre nationalistes et libéraux, entre Est et Ouest. Pour preuve, ce vote prévu aujourd'hui à Bruxelles pour ou contre la fin de la concurrence déloyale entre les chauffeurs routiers dans l'Union, Laurent Kramer.
Des chauffeurs routiers polonais ou roumains payés quelques centaines d'euros par mois pour livrer partout en France et en Europe sans véritable contrôle de la réglementation ni de leur temps de travail à la Fédération nationale des transporteurs routiers. Florence Berthelot espère un vote positif du Parlement européen pour freiner ces pratiques.
Ces conducteurs aujourd'hui peuvent être amenés à partir de chez eux pendant plusieurs semaines en se reposant le week-end sur des aires d'autoroute ou des parkings. Et on peut avoir le cas de conducteurs qui partent 3 mois sans retourner dans leur pays d'origine.
L'absence de réglementation claire dans les pays européens qui refusent aujourd'hui de voter ce texte ouvre la porte à une concurrence déloyale dans le secteur routier de 1 à 4 fois moins cher. Les pays de l'Est et du Sud de l'Europe bataillent depuis des mois pour faire échouer ce texte, explique Philippe Lavrieux, eurodéputé au PPE.
Ce n'est pas un affrontement droite contre gauche ou écolo contre libéraux, je ne sais pas quoi. C'est à l'intérieur de chaque groupe qu'il y a des divisions sur ce texte. C'est essentiellement les Roumains, les Hongrois et une partie des députés polonais. Nous pensons que ça ne peut pas rester le Far West à faire du dumping social à l'égard de nos entreprises de transport.
Côté salariés français, on attend de véritables contrôles sur les routes et pourquoi pas sur les fiches de paye pour s'assurer que l'harmonisation sociale européenne du secteur routier sera bien respectée.
L'Europe ou comment la quitter, ça c'est le calvaire des Britanniques. Les députés hier ont fini par trouver une majorité pour reporter le Brexit au-delà du 12 avril si aucun consensus n'est trouvé d'ici là, ce qui empêcherait une sortie sans accord. Pendant ce temps-là, Theresa May continue à discuter avec Jeremy Corbyn, son opposant. Discussion constructive, mais pas encore concluante, selon le travailliste.
Il est 8h06, Florence, retour à la case garde à vue pour Carlos Ghosn.
L'ancien patron de Renault-Nissan, sorti de prison il y a un mois à peine, de nouveau arrêté ce matin à Tokyo. Vous y êtes, Yann Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Yann, Carlos Ghosn est déjà inculpé pour ne pas avoir déclaré tous ses revenus et pour abus de confiance. Que lui reproche-t-on de nouveau aujourd'hui ?
Alors cette fois, on lui pose des questions sur une affaire qui s'est passée à Oman, auprès d'un distributeur de Nissan, un distributeur qui vend à peu près 30 000 voitures par an. On se demande pourquoi il a fait transférer, il a ordonné le transfert d'énormes sommes d'argent en budget marketing à ce distributeur. Et ce que les enquêteurs ont trouvé, c'est que ce distributeur reversait l'essentiel de ces millions de dollars qui arrivaient à une société d'un ami de Carlos Ghosn. Cette société est basée au Liban et c'est elle qui a été utilisée dans l'achat d'un yacht de luxe dont se servait la famille et qui a aussi fait des injections dans la start-up du fils de Carlos Ghosn qui est en Californie. Donc le procureur que voit en ce moment Carlos Ghosn dit c'est un abus de confiance aggravé.
Alors Yann, il se trouve que Renault a signalé les mêmes soupçons à la justice en France. Carlos Ghosn s'en défend dans un communiqué qu'il a juste eu le temps d'envoyer avant son placement en garde à vue.
Oui, exactement. C'est un communiqué qui était préparé bien avant puisqu'on avait des rumeurs d'arrestation dès hier matin. Et il dit dans son communiqué, comme il dit en fait dans l'ensemble de sa défense ces dernières semaines, c'est un complot de Nissan et Nissan a fourni au procureur, au parquet de Tokyo, de fausses informations pour lui faire croire que j'avais commis des actes illégaux. Et donc, il pense que cette nouvelle arrestation, c'est la suite de ce complot. C'est comme ça qu'il se défend. Il dit toujours qu'il est totalement innocent de l'ensemble des charges. Mais c'est un petit peu plus compliqué à expliquer sur le cas du yacht et sur le cas de la start-up de son fils. On va voir dans les prochaines heures ce qui se passe exactement. Il peut aller en détention ce soir, dormir encore à Kosuge. Mais ce n'est pas une certitude. Il va être présenté à un juge immédiatement.
Yann Rousseau, merci beaucoup en direct de Tokyo. Carlos Ghosn, privé de sa retraite chapeau par le conseil d'administration de Renault hier. Il aurait dû toucher 770 000 euros par an en plus de sa retraite légale. On a aussi parlé cette semaine du départ de Tom Enders, le PDG d'Airbus, avec 1,3 million d'euros chaque année, très critiqué par le gouvernement qui pourrait plafonner ses retraites chapeau des grands patrons, pas au-delà du tiers de leurs revenus. C'est une information des Échos ce matin. Arrêtons-nous maintenant sur ces nouveaux témoignages en provenance de Syrie, en provenance d'un des camps administrés par les forces kurdes. Notre envoyé spécial a pu rentrer dans celui d'Al-Hol, dans le nord-est du pays, où 70 000 personnes s'entassent depuis la chute de Daesh à Baghouz. Beaucoup de femmes avec leurs enfants, des dizaines de Françaises. Celles qu'Omar Waman a rencontrées ne sont pas des repenties. Elles se languissent, au contraire, du califat perdu.
Enveloppées dans leur niqab noir, ces femmes disent être françaises. Venir de Nice, Paris, Lyon ou Toulouse, elles ont vécu les dernières heures de Daesh avant d'être transférées dans ce camp.
Il est toujours dans nos cœurs et ça, personne ne pourra l'enlever.
Même si là, il n'y est plus, il va revenir.
Il va revenir, l'État islamique ?
Bien sûr, il reviendra.
Et cet État islamique, dont elles espèrent un jour le retour, elles l'ont recréé derrière ces barbelés.
C'est comme si on était dans l'État islamique encore, sauf qu'on est enfermé dans un camp et que tout le monde fait sa vie, quoi.
Et certaines vont même jusqu'à comparer ce camp de Al-Hol à leur dernier bastion de Baghouz.
C'est exact. En fait, c'est Baghouz à Al-Hol.
Ouais, donc finalement, vous êtes bien ici ?
Non, je préfère être ici qu'être en France, mais je patiente et je verrai ce qui adviendra.
La France, nombre d'entre elles ne veulent plus en entendre parler.
Bah la France, non.
Pourquoi non ?
Parce que la France, c'est un... Ouais, non. Ils vont nous retirer nos enfants, ils vont nous fatiguer.
Toutes refusent catégoriquement la proposition des autorités françaises de rapatrier les enfants au cas par cas.
Non, je ne me séparerai jamais de mes enfants. Les enfants ont besoin de leur mère, c'est connu.
Retenues dans une partie du camp réservée aux étrangères, ces Françaises sont sous haute surveillance en attendant d'être fixées sur leur sort. Dans le nord-est de la Syrie, Omar Waman, France Inter.
La lettre d'adieu d'Abdelaziz Bouteflika au lendemain de sa démission, il demande pardon aux Algériens. Personne n'est parfait, dit-il, qui s'excuse auprès de ceux pour qui il aurait, sans le vouloir, manqué à son devoir. Il a 57 ans, ce qui est plutôt jeune pour un archevêque. Il est intransigeant sur la question des abus sexuelle dans l'Église. Et c'est lui qui a été nommé hier à Lourdes pour présider la conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, pour incarner le renouveau d'une institution en crise. Sa nomination, Julie Pietri, sera officiellement annoncée ce matin.
Ce n'est pas compliqué, il est l'homme de la situation, confie une ex-collaboratrice du diocèse de Paris, où il était basé jusqu'à cet automne. Éric de Moulin-Beaufort, contrairement à d'autres évêques, s'est très vite emparé des dossiers de pédophilie. Avant même l'éclatement de l'affaire Prénat, il a pris rendez-vous avec la brigade de protection des mineurs, raconte cette proche. Et depuis 3 ans, il est allé voir les victimes. Il a eu de l'avance. Sur Radio Notre-Dame, récemment encore, il dénonçait la manière dont l'Église et d'autres ont trop longtemps perçu la souffrance des enfants.
On fait comme si les enfants atteint à les oublier. Ça n'a pas beaucoup d'importance, on ne s'occupe pas beaucoup des enfants. Comme si c'était une jambe cassée, voilà, ça, c'est très désagréable pendant un temps, et puis ça passe, on l'oublie, ça fait des souvenirs de plus tard.
Aujourd'hui, ajoute-t-il, nous avons pris conscience du coût psychologique et de la violence de la pédophilie. Il milite pour la collaboration avec la justice et refuse la culture du secret. À Lourdes, un évêque heureux de son élection commente « Nous voulions un président clair, bon communicant, et c'est un changement de génération salutaire. L'homme est donc attendu, estimé, son mandat qui débutera en juillet n'en sera que plus scruté.
Julie Pietri, 18 mois de prison ferme requis contre Dieudonné au tribunal de Paris hier soir, accusé de fraude fiscale, de blanchiment et d'abus de biens sociaux. Pour les procureurs, sa culpabilité ainsi que celle de sa femme ne font aucun doute. Contre elle, ils ont requis une peine de sursis.
Il est 8h12, du sport et du business.
Mais oui, c'est l'heure des gros marchés à récupérer avant les Jeux de Paris en 2024. 5 milliards de contrats à prendre, annoncera aujourd'hui le patron de ces Jeux, Tony Estanguet, avec des dizaines de milliers d'emplois à la clé.
On a fait une cartographie 5 ans à l'avance qui identifie aujourd'hui des opportunités pour 150 000 personnes qui vont travailler à l'organisation des Jeux dans 3 grands secteurs. Le secteur de la construction avec un peu plus de 11 000 personnes, le secteur du tourisme avec 60 000 emplois mobilisés et le principal secteur qui sera concerné, ça va être le secteur de l'organisation avec un petit peu moins de 80 000 personnes. Et aujourd'hui, les athlètes se préparent déjà pour la réussite des Jeux. Bien nous, de notre côté, on est dans la même démarche. Grâce à cette cartographie que l'on a 5 ans avant, on va pouvoir mettre en place des formations avec les acteurs publics pour préparer ce tissu économique à répondre à l'ensemble des marchés qui, pour la grande majorité, arrivera en 2023 et 2024. Donc ça nous laisse un petit peu de temps pour vraiment faire de la pédagogie, mieux informer et mieux préparer ces acteurs économiques locaux à pouvoir gagner des marchés pour l'organisation des Jeux.
Tony Estanguet au micro de Margot Delpierre. Ils savent marcher pour la planète, les jeunes, ils savent aussi être créatifs, inventer, monter des projets innovants, récompensés par le concours Science Factor, qui va décerner ses prix aujourd'hui et concrétiser certaines des inventions de ces 50 équipes de collégiens et de lycéens français. Bon sang, mais c'est bien sûr Lisa Guyenne.
À 17 ans, Claire Blanjard est élève au lycée de Chauny dans l'Aisne. Avec 3 de ses camarades, elle a monté Autolienne, un projet d'éolienne au bord des autoroutes.
Donc c'est une éolienne miniature qui permet de récupérer le flux d'air inexploité des voitures pour recréer de l'énergie de façon propre, pour alimenter par exemple des bandes de péage ou des panneaux d'information sur l'autoroute.
En Loire-Atlantique, près de Nantes, Lilia Toulagui, 14 ans, elle a inventé un concept de chauffage écologique.
En fait, notre projet consiste à récupérer l'énergie thermique, donc la chaleur de l'eau chaude utilisée d'une douche. Donc ça pourrait permettre de chauffer la pièce. On a monté notre maquette, donc tous les morceaux, etc. Et donc grâce à un logiciel, on a tout programmé pour que ça fonctionne.
Un projet qui a fait prendre conscience à Lilia du problème du gaspillage de l'eau au quotidien. C'est aussi cela, l'enjeu du concours, éduquer les jeunes à la défense de l'environnement.
On nous parle beaucoup à l'école de la pollution, que la planète va mal, du réchauffement climatique, etc. Mais on n'arrive pas très bien à décerner l'ampleur de tout ça, et quand on a commencé à faire le projet, nos recherches, etc., on a vraiment remarqué que c'était énorme et qu'il fallait agir vite.
Un concours qui se veut aussi féministe, puisque toutes les équipes sont dirigées uniquement par des jeunes filles.
Des Parisiens, des hommes, cette fois contre des Bretons en finale de la Coupe de France après Rennes. C'est le PSG qui a gagné sa place hier soir en battant Nantes 3-0. Le PSG invincible depuis 2015. Cette finale, cette fameuse finale aura lieu le 27 avril au Stade de France. Il a fait enfin soufflé un vent de fraîcheur sur les cheveux des femmes. Le coiffeur Jean-Louis David est mort hier, il avait 85 ans. Coiffeur, précurseur, puis businessman, c'est un empire qu'il a construit, Sébastien Cabrita dos Santos.
Parti de rien, issu d'une famille de coiffeurs originaire de Grasse, Jean-Louis David se lance à Paris dans les années 50 et construit un empire. Plus d'un millier d'enseignes ont porté son nom à travers le monde, véritable vitrine du savoir-faire à la française pour Bernard Stalter, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure.
Quand il a lancé ses coupes dégradées, il a créé des franchises dans le monde entier. Il était en Mongolie, en Italie, en Suisse, au Brésil, en Pologne, au Québec. Jean-Louis David, c'est juste exceptionnel. On avait besoin d'un pionnier, il l'a fait.
Plus encore, Jean-Louis David aurait même participé à l'émancipation des femmes, si l'on en croit Delphine Courteil, coiffeuse pour différents défilés à Paris.
C'était le premier coiffeur à décoiffer les femmes, des coiffures beaucoup plus adaptées à leur vie, en fait, et moins à l'époque des années 50-60, où la femme était peut-être plus à la maison. Elle avait le temps de se relaquer le matin pendant des heures et des heures. C'était quelqu'un qui, peut-être, a libéré un peu les femmes, tout simplement.
Selon le magazine économique Bilan, la fortune de Jean-Louis David est estimé à plus de 100 millions d'euros.
Et il en profitait de cette fortune entre le lac Léman en Suisse et les îles Caïmans.
Merci Florence Paracuelos.